Gloire à Dieu, on continue notre petite étude dans Jacques. On est rendu dans Jacques au chapitre 4. On a commencé chapitre 4 la semaine passée, qui est une continuité du chapitre 3, comme j'ai dit, parce que Jacques est en train de parler sur un sujet qui est fort intéressant. C'est un sujet qu'on a déjà parlé dans des prédications, mais quand même, si on arrive encore en étudiant Jacques, on arrive encore à regarder encore ces passages-là. Je pense qu'on les regarde là, puis on va les regarder encore plus tard parce que c'est important qu'on comprenne ce qui se passe. Jacques, dans les passages qu'il est en train de nous parler, il nous parle comment est-ce que l'esprit de dispute, puis le zèle amer, comment ça peut détruire l'Église. Il nous a parlé aussi comment est-ce que les passions charnelles, puis les plaisirs de ce monde, de notre corps qui fait qu'il court, puis que ça nous amène en guerre les uns avec les autres. Puis ce soir, il continue encore dans la même lignée en nous parlant encore des combats que les chrétiens ont, puis il met le doigt encore sur quelque chose qui est important, puis je trouve que c'est encore plus pire aujourd'hui que c'était dans ce temps-là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les films dans le temps des apôtres, quand il y a eu les persécutions, mais par la suite, là, ils étaient dispersés. Là. Les Juifs chrétiens étaient dispersés dans l'Empire romain. Puis il y en a qui vivaient dans des grottes, ils vivaient dans des cavernes, ils vivaient dans où ce qu'ils pouvaient pour se cacher, parce qu'il y avait une grosse persécution contre les chrétiens. Puis même dans ce temps-là, parmi la persécution, il se faisait dire qu'il y a un gros danger avec ce qui se passe autour. À cause du monde, des plaisirs de ce monde. C'est un danger pour les chrétiens, même dans ce temps-là. Fait qu'imaginez-vous des plaisirs qu'il y a aujourd'hui, la possibilité des plaisirs de ce monde qui sont là aujourd'hui, pour tenter les chrétiens à pécher contre Dieu. C'est beaucoup plus pire que dans ce temps-là. Le titre du message, en regardant dans Jacques, le chapitre 4, les versets 4 et 5, c'est ce qu'on va voir ce soir, le pouvoir destructif de l'amour du monde. Comment est-ce que aimer le monde, quand on parle d'aimer le monde dans ses péchés, bien entendu, Jésus nous a dit d'aimer nos ennemis. Il nous dit de s'aimer les uns les autres. Donc, en aimant les gens, tu pèches pas. Quand il parle dans ce verset-là de l'amour du monde, il parle pas de pas aimer les gens, il parle de pas aimer le péché qui est dans ce monde. Jacques, il nous enseigne sur le troisième danger qui détruit et qui fait un ravage dans la vie des croyants. Parce que, on va le voir plus loin, il y a des versets qui disent que des chrétiens qui ont abandonné le Seigneur par l'amour du monde, l'amour du siècle présent, dans ce temps-là, comment est-ce qu'il peut en avoir aujourd'hui des gens qui abandonnent le Seigneur aujourd'hui pour la multitude d'ouvertures? C'est 100 fois plus pire que dans ce temps-là. Tout est permis aujourd'hui. Il n'y a plus rien de défendu, là. Fait que, aux yeux du monde. Fait que, si tu fais adultère aujourd'hui, tu vas être quasiment applaudi d'avoir fait 20 adultères dans ta vie. Aujourd'hui, ça dérange plus personne. Dans ce temps-là, il est lapidé. C'était bien plus pire. Puis s'il y en a un qui le faisait, il fallait pas que quelqu'un sache parce que tu étais lapidé. Tu mourrais là. Puis aujourd'hui, c'est une gloire de le faire. Fait que c'est bien plus pire aujourd'hui. Là, on parle d'adultère, mais dans toutes les sortes de péchés. Comment est-ce que c'est bien plus ouvert pour l'ivrognerie, bien plus ouvert pour la drogue, bien plus ouvert pour toute forme de perversité. Nous avons parlé qu'il y avait des esprits de dispute qui travaillent, on a vu les passions charnelles qui nous font la guerre. Maintenant, Jacques nous parle de ceux qui sont encore attachés à aimer les plaisirs péchés de ce monde. Là, il parle à des chrétiens, que les chrétiens sont comme en conflit ou en combat parce qu'ils sont encore attachés après les choses de ce monde. Surtout quand on le sait que un des premiers critères pour venir à Jésus, il fallait être prêt à se repentir. Puis se repentir, c'est vouloir se détourner du monde, détourner de notre vie de péché, puis là, de se tourner vers le Seigneur. Mais quand tu es devenu chrétien, c'est comme rendu un combat pour le chrétien de ne pas retourner dans son ancienne vie. Mais le monde, avec ses attraits, ses désirs qu'on a dans notre corps, les désirs qu'on a dans notre corps qui nous retirent Des fois, quand on est surtout découragé, fatigué, tanné, on voudra tout lâcher pour retourner comme qu'on était avant. Mais il y a un combat qu'on doit exercer pour rester fidèle au Seigneur, rester, de persévérer avec le Seigneur, puis de garder nos victoires avec le Seigneur. Parce que si on n'est plus dans nos péchés, là, c'est déjà des victoires qu'on a eues. On a peut-être des tentations d'y retourner, mais il ne faut pas y retourner. On est déjà vainqueur en ayant reçu Jésus-Christ, puis en marchant de progrès en progrès dans la sainteté, dans la pureté. Dans Jacques 4 et 5, que nous allons lire ce soir, le chapitre 4, les versets 4 et 5. Adultère que vous êtes, c'est Jacques qui parle aux gens, puis il ne mange pas ses mots. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qui l'a fait habiter en nous. On va regarder ça tranquillement avec d'autres versets. Jacques nous mentionne dans ces versets-là qu'un chrétien ne peut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force, et en même temps aimer les péchés du monde. Tu peux pas être en amour de Dieu, puis de vouloir marcher dans la sainteté, puis dans la pureté, puis en même temps vouloir être dans l'amour des péchés du monde. Tu peux pas marcher ces deux bords. Si un chrétien, son cœur est partagé entre les deux, mais il se fait appeler adultère devant Dieu. Pourquoi que Dieu nous appellera adultère? Mais on le sait aussi que on est appelé, quand on est venu à Jésus, Jésus nous pardonne, puis maintenant, nous sommes la future épouse de Jésus. On est appelé, l'Église du Seigneur va se marier avec Jésus. La Bible a dit qu'il va y avoir les noces de l'agneau dans les cieux. Ça va être le mariage de Jésus avec son Église. Puis son Église, les croyants, ont été rachetés comme des personnes qui étaient dans leur péché, tout sales, tout crottés, ont été calés dans la boue. Je parle de sa tête. Il est venu nous chercher. Il nous a pardonné, il nous a lavé. Puis là, il est en train de nous préparer au mariage de son Fils. Ça lui a coûté cher pour le rachat. Ça lui a coûté sa vie. Il a donné sa vie pour se trouver une épouse. C'est extraordinaire comment Dieu a démontré son amour. Puis nous qui sommes les fiancés, les promises, on doit appartenir au Seigneur de tout notre cœur. On doit, si on ne l'a pas appris, mais il faut apprendre à aimer Dieu. Ça me surprendrait qu'on ait entendu parler et qu'on ne s'est pas plus touché que cela, là, parce que c'est grandiose de se faire aimer par le Créateur. Il y a peut-être qu'on peut se dire, il n'y a même pas une personne sur la terre qui m'aime vraiment. Tout le monde m'aime pour qu'est-ce que je peux lui donner, et non pas qu'il m'aime parce que pour qui je suis. Hein? Tout le monde quasiment peut dire ça. Le monde sont aimés d'un amour égoïste, puis c'est à peine si même des fois il y a quelqu'un qui nous aime, des fois personne nous aime. Mais on doit savoir que Dieu nous aime. Puis ça lui a coûté, lui nous aime d'un amour véritable. Puis ça lui a coûté cher pour nous racheter, puis il nous a prouvé son amour en envoyant son Fils mourir pour chacun de nous. Puis maintenant qu'on a accepté Jésus, on l'a goûté encore plus son amour parce qu'il nous a pardonné. On le sent, on le vit qu'on est plus sous le fardeau de nos péchés, qu'on est libre, qu'on marche libre du péché, qu'on a notre cœur, dans notre âme, on sent plus ce fardeau-là. On a de la paix, on a de la joie. C'est produit par Dieu lui-même. Puis on vit différemment quand notre vie commence à changer avec le Seigneur. Puis que là, on lui appartient pleinement. Puis là, il nous conduit jusqu'à temps qu'il nous emmène aux noces, parce qu'il veut se marier avec nous. Mais là, quand le chrétien commence à repenser à son ancienne vie, puis le monde, puis tous les plaisirs qu'il y a dans ce monde, Puis là, il est attiré, puis il recommence à retomber en amour avec ça. C'est encore bien plus pire, là. Être tenté, c'est pas pire, mais retomber en amour avec ton ancienne vie, avec tes péchés, mais là, tu te fais traiter d'adultère. C'est ce que Jacques dit, la première phrase dans ce verset-là. Il dit, « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? » Quand tu commences à retourner, à vouloir aimer ce qui te condamnait, ce qui te détruit, ce qui nous gardait captifs, le péché, tout ça, quand tu commences à retomber en amour avec tout ça, c'est parce que tu es vaincu par tous ces péchés-là. Là. Il dit, tu es rendu un ennemi de Dieu. C'est inimitié contre Dieu. Tu deviens ennemi de Dieu si tu retombes en amour avec ton ancienne vie. Puis il y avait des chrétiens dans ce temps-là qui étaient retombés en amour avec leurs anciennes vies. Puis là, Jacques est obligé de les ramener à l'ordre en leur essayant de les raisonner par ces versets-là pour leur dire, réalisez, là, si vous retombez en amour avec votre ancienne vie de péché, vous êtes des adultères devant Dieu, parce que Dieu, il vous a fiancé à son Fils. Il dit, celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Ouch! Tu veux être aimé de Dieu, tu veux avoir la vie éternelle, tu veux les promesses de Dieu, tu veux vivre le Saint-Esprit, tu veux vivre tout ce que Dieu a donné, mais on tombera en amour avec des péchés. Non, on est appelé à renoncer au péché, à mettre un terme au péché. On est dans ce monde pendant un certain temps, mais il y a une raison pourquoi on est encore dans ce monde. Dans la parabole du semeur, on a parlé un peu dimanche, c'est un semeur sorti pour semer, comme qu'il semait, une partie de la semence a tombé dans les endroits pierreux. Dans ces versets-là, dans la parabole, Jésus nous explique que le champ où est semée la semence, ça tombe dans quatre endroits, mais ce champ-là, c'est le monde. Puis le monde, il est composé de deux groupes de personnes. C'est un monde-là dans lequel on vit. Le champ que la semence a été semée, il dit c'est le monde, puis il y a deux groupes. Il y a les fils de Dieu, puis les fils du malin. C'est majoritairement le monde du malin. Puis nous-mêmes, les fils de Dieu, on faisait partie des fils du malin. Mais on a accepté Jésus, fait qu'on est ressorti de là, puis il a fait de nous des fils. Mais on était tous sous la domination de l'ennemi. Dans Matthieu 13, les versets 37 à 40, je vais vous le lire rapidement. Il dit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. On voit qu'il y a deux groupes qui ont poussé dans ce monde. Les fils du royaume, puis les fils de l'ivraie, qui étaient à la mauvaise herbe, autrement dit. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Il dit, la moisson, il dit ça, c'est la fin du monde, puis les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache la mauvaise herbe, puis on la jette dans le feu, il en sera de même à la fin du monde. Ils vont prendre la mauvaise herbe, puis ils vont la jeter dans le feu. La mauvaise herbe, c'est les fils du malin. Ce qu'on doit comprendre, c'est qu'on est encore dans ce monde-là, qui est composé de l'ivraie, qui est la mauvaise herbe, les fils du diable, et les fils du royaume de Dieu, ceux qui ont été rachetés par le Seigneur. Puis on est encore là parce que la fin du monde n'a pas encore eu lieu. Fait que l'ivraie n'a pas encore été enlevée. Fait que tant que ça ne sera pas arrivé, cette fin du monde-là, bien on est encore dans ce monde, puis il y a un risque de contamination, il y a un risque de que les fils du royaume soient attirés à retourner vers les fils du malin, puis à participer aux mêmes débauches que les fils du malin. Voyez-vous, l'idée, c'est qu'on est dans ce monde composé de ce combat-là, tant aussi longtemps que les anges ne viendront pas enlever les fils du malin. Jésus nous enseigne que nous sommes encore dans ce monde, mais pour vivre en se gardant du mal. Parce que quand on s'est converti, il aurait pu venir nous chercher puis nous emmener tout de suite au ciel. Non. Il nous a restés ici dans ce monde. Même si on a changé de camp et qu'on est devenu les fils du royaume, mais on est encore dans ce monde, au milieu des fils. Il dit, laissez-les croître ensemble. On attend la fin pour trier tout cela. Mais on est quand même, on est en train de croître la bonne herbe avec la mauvaise herbe dans ce même monde. Puis Jésus a un but pourquoi il nous a restés dans ce monde. Il nous dit, dans Jean 17, le verset 14 à 18, il dit, Jésus est en train de parler à son Père, il dit, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, en parlant des gens du monde. Hein? Les gens du monde ont haï ceux qui ont reçu la parole de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Là, il est en train de nous dire qu'on est des exceptions. On n'est pas de ce monde, même si on est encore au milieu du monde. Il faut réaliser qu'on est dans ce monde, mais on ne fait plus partie de ce monde, même si on est encore les deux pieds dans ce monde. Comme Jésus était dans ce monde, mais qui ne faisait pas partie de ce monde. Il faisait partie du royaume d'en haut. Quand tu acceptes Jésus, il te change de camp. Tu es rendu un habitant du royaume des cieux. Puis t'habites dans le ciel, même si t'as encore les deux pieds sur la terre. Mais tu vis parmi le reste du monde qui est terrestre. Là, il dit à son Père, Jésus, « Je te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » On a encore les deux pieds ici. Puis là, il nous dit, « On les enlèvera pas tout de suite, ils ont encore une mission ici. On les reste là, mais protège-les, garde-les. » Du mal qu'il y a dans ce monde. Puis là, il nous rajoute encore, ils ne sont pas du monde, mais moi, je ne suis pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Puis là, il dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Là, on comprend pourquoi qu'on est encore ici. On est dans un monde formé de l'ivraie puis du bon blé, qui est nous, les fils du diable puis les fils du royaume de Dieu. Mais il dit, on fait pas partie de ce monde, mais on a encore les deux pieds dans ce monde, puis là, Jésus nous envoie dans ce monde. Mais il demande à son Père qu'il soit préservé du mal. Cela explique le fait que nous nous sentons rejetés par le monde. Ça nous donne la raison pourquoi que le monde nous haït. Il nous l'a dit dans ces versets-là, puis je vais vous en relire un autre qui dit la même chose, dans Jean 15, le verset 19. Il dit, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, je vous ai choisi du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Fait que ça l'explique pourquoi on se sent un peu rejeté de ce monde. C'est parce qu'on fait plus partie de ce monde. On était choisi par Dieu, il nous a appelés, on l'a accepté, on est changé de camp, puis maintenant on est renvoyé par Dieu avec le sceau de Dieu dans le front, puis on représente le royaume de Dieu dans ce monde. Puis là, le monde nous regarde, puis ils savent qu'on fait plus partie de ce monde, puis c'est pour ça qu'ils nous haïssent. C'est pour ça que les conflits dans ce monde sont là. C'est pour ça que les chrétiens se font persécuter à cause qu'on est des envoyés dans ce monde pour faire partie de ce monde. Mais Jésus nous demande d'aller dans le monde pour semer la parole. On a une mission. On n'est pas envoyé pour repratiquer ce que le monde pratique dans leur péché ou qu'est-ce qu'on pratiquait auparavant. On est renvoyé pour une mission, et je les envoie dans le monde, puis quand on est envoyé, c'est pour aller porter la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il nous dit dans Marc 16, 15? Puis il leur dit, « Allez par tout le monde, puis prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Et là, notre raison d'être, de rester les deux pieds dans ce monde. Pas pour embarquer dans les pratiques de péché, pour aller leur porter la bonne nouvelle, pour leur dire qu'ils peuvent être pardonnés de leurs péchés, puis ils peuvent sortir de cette vie-là. Voyez-vous, ça commence que pourquoi que un chrétien qui se ferait séduire puis qui retourne dans ses péchés qu'il avait auparavant ou les péchés que le monde vive, il se ferait traiter d'adultère. Parce que là, il est consacré à Dieu, béni par Dieu, sauvé par Dieu, envoyé dans une mission représenter Dieu, puis il se corrompt, puis il retourne se patauger dans toutes les débauches puis les perversions qui vont le rentraîner à sa perte. Il se ferait traiter d'adultère devant Dieu. Le monde regorge de convoitises qui amènent la chute des enfants de Dieu. C'est pas des farces, qu'est-ce que je dis là. Dans Marc 4, 19, il dit, quand il parle dans la semence qui est semée tout le long, à un moment donné, il parle de la semence qui est tombée dans les épines et les ronces. Là, il dit, c'est à cause que les épines et les ronces, là, vont étouffer la parole qui poussait. Ça l'empêche de porter du fruit. Cette personne-là avait été choisie par Jésus. Elle a compris le message. Elle a accepté Jésus. Mais là, quand il grandissait dans le Seigneur, il a vu des choses autour de lui. Ça l'a étouffé sa vie spirituelle. Puis il n'a pas eu de fruit dans sa vie. Il est mort là. Ça nous dit, Jésus nous explique c'est quoi qui a été les choses qui l'ont étouffé dans sa vie spirituelle. Il dit, les soucis du siècle, la séduction des richesses, puis l'invasion des autres convoitises, ça étouffe la parole, puis ça la rend infructueuse. L'invasion des convoitises qu'il peut avoir dans ce monde va étouffer la vie spirituelle d'un enfant de Dieu racheté, qui est renvoyé dans ce monde pour travailler pour sauver les âmes, mais il va être étouffé, puis sa vie spirituelle va être éteinte parce qu'il est épris de toutes les convoitises, vouloir venir riche, puis vouloir courir après les plaisirs de ce siècle. Quels sont les plaisirs qui peuvent attirer un chrétien? Peut-être les petites excitations qu'on pouvait avoir avant d'être chrétien, mais ça vaut-tu le coup de perdre sa vie éternelle pour les plaisirs passagers qui durent tellement passagers, puis que tu te sens coupable, tu te sens sale, puis tu te sens perdu parce que là, tu as attristé le Saint-Esprit. Démas, qui est un compagnon de l'apôtre Paul, un compagnon de service, un compagnon de ministère, un compagnon d'œuvre, un compagnon de combat avec Paul, l'apôtre Paul, implanteur d'église, puis d'un gros réseau d'églises. Dans 2 Timothée 4:10, ça nous dit « Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » Puis il est parti pour Thessalonique. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant à Thessalonique? Il a décidé d'abandonner le ministère, abandonner son service pour Dieu, puis abandonner sa vie de relation avec Dieu pour un plaisir qu'il y avait dans ce monde-là, qui était 100 fois moins pire qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les plaisirs sont beaucoup plus diversifiés. Paul, lui, avait une attitude complètement contraire face au monde. Dans sa tête, l'apôtre Paul, ça, c'est un exemple à imiter, dans Galates 6, 14, Paul, il dit, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier en autre chose que dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme moi je le suis pour le monde. » Pour lui, le monde, il était crucifié. Il n'y avait rien d'autre que de se glorifier dans la croix du Seigneur Jésus-Christ. Il y avait juste ça dans sa tête. Appartenir au Seigneur, travailler pour le Seigneur, vivre pour le Seigneur. Et tout le reste de ce monde s'est crucifié pour moi. Il ne voulait plus rien savoir de ce qu'il y avait autour parce que il savait que c'est la perte qu'il y a autour. Et lui, il voulait être sauvé. Dieu n'aime pas que les chrétiens flirtent avec le péché du monde. Cela attriste le Saint-Esprit. En Éphésiens 4, 30, ça nous dit, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Dieu, quand tu lui donnes ta vie, quand tu acceptes Jésus comme ton sauveur, il ne fait pas juste te pardonner, il te donne le Saint-Esprit. Puis c'est pas n'importe qui le Saint-Esprit, c'est le Créateur lui-même, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu trois fois saint. Il vient entrer en toi. Ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit, une habitation de Dieu en esprit. L'Esprit de Dieu, l'Esprit du Dieu trois fois saint est entré en nous. Puis là, il nous dit, attristez-les pas. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un chrétien pense à quelque chose, ou qu'un chrétien dit quelque chose, ou un chrétien fait quelque chose, il y a un risque d'offenser Dieu. Il y a un risque d'attrister Dieu. S'il prend sa vie à la légère, puis que s'il trouve, c'est pas grave, faire adultère, ben, je donne toujours cet exemple-là, parce que c'est la plus simple, mais il y a n'importe quel péché, c'est pas grave, faire tel péché. Oui, c'est grave. Tu as le Dieu trois fois saint à l'intérieur de toi. Ça l'attriste. Puis avec l'autre verset, dans le Jacques 4:4, il dit ne devenons pas ennemis de Dieu. Quand il dit celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Dieu lui se propose de donner en mariage à son fils. Puis en attendant, il te donne un cadeau, c'est sa présence à Dieu en toi. Puis là, est-ce qu'on risquerait de tout perdre ça pour devenir ennemi de Dieu? Pas du tout. Dieu il a quand même déposé son esprit en nous. Ça, c'est un gage de notre héritage. C'est un acompte, un gage, c'est un acompte. C'est comme tu veux mettre une mise de côté, tu vas au magasin, tu vas acheter un objet, tu vas au plan de mise de côté, tu peux mettre un acompte sur, tu lui donnes 10% de la valeur de l'objet, mettons, puis te le mettre de côté, puis ça t'appartient. C'est mis de côté, ça t'appartient, puis tu vas l'avoir à, mais que t'aies tout payé. Mais Dieu nous a donné un acompte, un gage, pour nous mettre de côté, on lui appartient, puis il veut nous amener dans son royaume. Mais faut faire attention parce que ce qu'il a mis comme mise de côté, c'est sa présence. Puis on peut l'offenser, on peut l'attrister. Puis Dieu il a déposé ce qu'il y a de plus précieux pour lui. Ce qu'il chérit. Dieu a déposé en nous ce qu'il chérit de plus, ce qu'il y a de plus précieux pour lui. Une partie de lui-même, son esprit. C'est ce qu'il nous dit dans Jacques 4:5, dans les mêmes versets qu'on est en train d'étudier. Il dit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qui l'a fait habiter en nous. Dieu chérit son Esprit. C'est ce qu'il y a de plus précieux. Puis il voudrait surtout pas qu'il soit abîmé, dans un sens, attristé. Méprisé, offensé, injurié, sali, c'est son esprit, c'est l'Esprit Saint. Puis Dieu, ça dit, les Écritures parlent pas pour rien. Quand il dit ça, c'est grave. Faut prendre notre vie chrétienne au sérieux. Puis on peut pas se permettre de retourner en arrière et de tomber en amour avec les péchés de ce monde. On peut pas se permettre de mépriser ce qu'on a reçu en acompte en attendant ce qui nous attend d'un jour qu'on va retrouver Jésus puis qu'il va nous donner la vie éternelle puis qu'il va nous marier. Ça va être extraordinaire, tout ça. Il n'y a rien de comparable à tout ça. Aujourd'hui, on vit une vie ordinaire. On est assis sur des chaises, ils sont même pas pareils dans une bâtisse qui est vieille de 60 ans. Puis que tout est craqué partout. Mais un jour, ça va être beaucoup plus beau que ça, croyez-le, la Bible le dit. Les rues pavées d'or, les murs comme du cristal transparent, La ville est éclairée de la gloire de Dieu, que Dieu est la lumière qui va éclairer la ville. Une ville qui n'a pas de nuit, c'est tout le temps le jour. Puis on va voir Dieu de nos yeux. Ça va être extraordinaire, le feeling qu'on va ressentir dans cet endroit-là. Faut pas s'arranger pour perdre notre place, frères et sœurs, pas se faire voler. Puisqu'il faut tenir compte des avertissements que Jacques est en train de dire à l'Église dans la dispersion qu'il y avait dans ce temps-là. Je vais vous relire les passages parce que c'est trop fort. Moi, je trouve ça très fort. Il dit aux gens, aux chrétiens qui sont là, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qui le fait habiter en nous. Marchons à l'unisson avec l'Esprit de Dieu. Marchons dans le chemin resserré qui mène à la vie. Amen. Prions. Amen. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui nous parle et qui nous montre clairement qu'on ne fait pas partie de ce monde puis qu'on n'a pas à retourner dans les choses, les péchés de ce monde. Garde-nous loin de toutes ces choses. Garde-nous loin du mal et du péché. On ne veut pas attrister ton esprit. Je sais, Seigneur, que c'est ce que tu as de plus précieux. Puis merci de nous l'avoir donné. Merci que ton esprit habite nos cœurs et qu'il nous remplisse. Seigneur, guide-nous dans le chemin de la sainteté, de la pureté, à marcher toujours plus consacré et en même temps à être des porteurs de la bonne nouvelle pour amener le salut dans ces coins reculés de cette vallée de l'ombre de la mort. Seigneur, merci de nous utiliser et garde-nous et protège-nous dans le nom de Jésus. Amen. Amen.